Europe Midi, Patrick Cohen.
Bonjour et bienvenue, il est midi et demi. Paris confiné, la mairie laisse tomber. Le premier adjoint d'Anne Hidalgo parle ce matin d'une hypothèse, pas d'une proposition. L'idée d'un confinement strict de 3 semaines de la salle capitale avait été dénoncée comme un non-sens. Le début du confinement ce week-end à Dunkerque et Nice, ce soir, mais pas pour les stations de ski de l'arrière-pays niçois qui accueillent de nombreux vacanciers depuis Noël. Un barbecue géant hier soir à Melun en Seine-et-Marne avec 150 fêtards, certains ont résisté à l'intervention des policiers. Le vaccin AstraZeneca est bien meilleur que ce qu'on pensait, nous disent les dernières études. Pour les Rix de l'Essonne, un deuxième mineur de 15 ans, meurtrier présumé, a été envoyé en prison. Et puis, Monsieur Patate ne sera plus un monsieur. Il ne sera plus genré, annonce son fabricant. Invité d'Europe Midi, l'eurodéputé Pascal Canfin, président de la Commission Santé et Environnement du Parlement européen, pourrait-on produire davantage de vaccins en faciliter l'accès à d'autres pays? Pascal Canfin a pu questionner hier 7 patrons de labos depuis Bruxelles.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Non, Paris ne sera pas cloîtré toute seule pendant 3 semaines. La proposition choc de la mairie d'Anne Hidalgo d'un confinement strict pour pouvoir tout rouvrir ensuite a vite fait flop. Les élus d'opposition et ceux de la région ont fait remarquer que le virus ne s'arrête pas aux portes du périphérique et qu'une telle mesure n'aurait aucun sens. Ce matin, rétropédalage du premier adjoint Emmanuel Grégoire qui évoque une simple hypothèse.
Ça n'a jamais été une demande de notre part, mais simplement une hypothèse que nous souhaitons mettre sur la table. Mais face à l'aggravation de la situation sanitaire, nous disons que la politique des demi-mesures qui consiste à compléter par séquence en rajoutant des difficultés aux difficultés sans résultat sanitaire probant pose la question ou pas de l'arbitrage de la part de l'exécutif national sur un confinement plus dur.
Propos recueillis par Diane Berger. Jean-Rémy Baudot, vous avez joint l'entourage d'Anne Hidalgo et celui de Valérie Pécresse à la région à propos de ce qui ressemble à un pétard mouillé. Comment expliquer ce faux pas ?
Eh bien Patrick, en politique, c'est ce qui s'appelle un ballon d'essai raté, bien silencieux depuis hier soir. Effectivement, l'entourage d'Anne Hidalgo a fini par nous répondre et un très proche de la maire de Paris prend ses distances avec Emmanuel Grégoire. Il a fait une erreur d'appréciation. Cette proposition hier, c'est une mauvaise traduction de l'état de réflexion de la maire. Fin de citation. En gros, ce qu'on nous explique, c'est qu'Anne Hidalgo avait posé en privé l'hypothèse d'un reconfinement strict de 15 jours. Tout juste une hypothèse, pas une proposition, précise son entourage. Mais Emmanuel Grégoire serait donc allé trop loin. Ce quoi qu'il fait évidemment beaucoup réagir hier, puisque personne n'imagine que le premier adjoint ait pris la parole sans l'accord de la maire. L'opposition parisienne se gausse. Ils ont voulu faire un coup, se prennent un effet boomerang, tacle un élu parisien de droite. Hidalgo vend du rêve, mais c'est illusoire. Personne n'y croit au retour de la vie normale après 3 semaines, persifle l'entourage de Valérie Pécresse à la région. Même à l'Elysée, un conseiller d'Emmanuel Macron s'amuse de, je cite, un superbe rétropédalage dans la semoule. Bref, cette polémique, elle ne fait pas avancer le dossier, crée d'ailleurs probablement plus de stress qu'autre chose pour les franciliens. Et politiquement, pour Anne Hidalgo, obligée de désavouer son fidèle premier adjoint, eh bien ça tombe mal, alors même qu'elle débute une sorte de tournée nationale de pré-campagne présidentielle.
Jean-Rémy Baudot, ce soir 18h, début du confinement de week-end dans l'agglomération de Dunkerque et sur la bande littorale des Alpes-Maritimes. Tout le monde chez soi, sauf dérogation ou motif impérieux jusqu'à lundi matin. Mais sur la Côte d'Azur, l'arrière-pays niçois n'est pas concerné par la mesure et les stations de ski font presque le plein, étonnant, à moins de 2 heures de Nice, la métropole de France la plus touchée par le Covid. Auron, Valberg, Isola 2000 accueillent des vacanciers et font marcher leur remontée mécanique pour les enfants des écoles de ski. Frédéric Michel, vous êtes à Nice pour Europe 1, vous avez pu le vérifier ce matin.
Effectivement Patrick, hein, neige et soleil, c'est le cocktail parfait pour les fans de glisse, c'est d'ailleurs le slogan de la station Isola 2000. Et ici, madame la maire, Mylène Agnelli, ne cache pas qu'avec les vacances scolaires et l'entrée en vigueur du confinement ce soir, il y a du monde, même beaucoup de monde.
Nous, les gens étant propriétaires ou les gens pouvant louer des appartements à la semaine, ils viennent pour échapper au confinement sur la côte et pour monter nous voir. Mais en même temps, il y a des gens qui ont aussi annulé en disant on a peur que ce confinement s'étende, donc finalement on ne vient pas.
Même si la saison reste compliquée, les stations des Alpes du Sud limitent la casse. Valérie Belpois tient l'hôtel Le Druos au pied des pistes d'Isola.
On a beaucoup de chance parce qu'on a une réelle volonté politique aussi dans le 06 d'avoir tout fait pour que les stations soient le moins impactées possible. On a la chance d'avoir une remontée mécanique ouverte aussi, c'est pas le cas de toutes les autres stations. Après, au niveau rentabilité, on est loin du compte. Moi, je suis à peu près à 80% de perte de mon chiffre d'affaires.
Alors, dans son établissement, seules 10 chambres sont occupées sur les 39, mais les locations saisonnières, vous l'avez entendu, qui permettent plus d'autonomie, cuisiner notamment comme à la maison, ces résidences font le plein, paradoxal, alors qu'à moins de 2 heures de route, les villes du littoral voient rouge.
Effectivement, Frédéric Michel. Du monde également hier soir à Melun, autour d'un barbecue géant, environ 150 personnes qui faisaient du feu pendant le couvre-feu et que la police a eu du mal à disperser, Gladys Lafitte.
Oui, visiblement le couvre-feu n'était pas un obstacle à ce barbecue au pied d'un immeuble, mais ce n'était pas non plus au goût de tous les habitants puisque quelqu'un a appelé la police pour signaler ce regroupement interdit. Et quand les policiers arrivent, il ne reste plus qu'une cinquantaine de personnes, mais qui ne veulent pas quitter les lieux. Le ton monte, les esprits s'échauffe. Un policier est bousculé, il est légèrement blessé alors qu'il tombe par terre. 4 personnes sont finalement interpellées, âgées de 16 à 27 ans. Mais au moment de partir, l'équipage essuie des tirs de mortier d'artifice, sans dégâts néanmoins. Il est 20h30, le calme est revenu, mais ça ne s'arrête pas là. Les policiers se rendent compte qu'au même endroit, plusieurs personnes tentent de casser les caméras de vidéosurveillance. Retour sur place d'un équipage qui disperse ce nouvel attroupement vers 23h30, sans que personne ne soit blessé cette fois-ci.
Gladys Lafitte, merci. Parmi les bonnes nouvelles du moment, l'ouverture annoncée pour début avril de la vaccination des plus de 75 ans, la tranche d'âge 65-74 pour être précis, avec pour l'essentiel des doses d'AstraZeneca qui n'est pas un vaccin de deuxième catégorie. C'est ce qu'a souligné hier soir le professeur Alain Fischer. Anne Le Gall, de nouvelles études viennent en effet de démontrer son efficacité.
Voilà, 20% de la population écossaise a déjà été vaccinée avec les sérums de Pfizer et AstraZeneca. Et selon une étude préliminaire menée à partir des données de sécurité sociale dans ce pays, les deux vaccins ont une très bonne efficacité sur les hospitalisations. Les scientifiques ont établi que les formes graves ont diminué de 85% pour les personnes vaccinées avec le produit Pfizer et de 94% chez les bénéficiaires du traitement AstraZeneca. C'est donc encore mieux que ce que laissaient entendre les essais de phase 3. Autre bonne nouvelle, ce vaccin AstraZeneca, chez nous réservé aux moins de 65 ans, a aussi fait la preuve de son efficacité chez les plus âgés, outre-Manche. Tout vaccin confondu, les plus de 80 ans ont vu leur risque d'hospitalisation baisser de 81% en moyenne. Des données d'autant plus rassurantes qu'elles tiennent compte de la présence du variant britannique. Et enfin, les données de tolérance de ce vaccin AstraZeneca sont aussi rassurantes, a indiqué hier le professeur Alain Fischer. Les réactions post-vaccination sont peu graves, temporaires, elles concernent surtout les jeunes et elles peuvent se prévenir avec du paracétamol, a-t-il précisé.
Anne Le Gall, les vaccins et leur production, on y revient dans quelques minutes avec notre invité Pascal Canfin. À Bruxelles, lors d'un sommet européen en visioconférence, pas d'accord des 27 sur l'instauration d'un passeport vaccinal, mais Emmanuel Macron a évoqué la mise en place d'un pass sanitaire en vue de la réouverture des restaurants et des lieux culturels.
Pour organiser ces réouvertures, nous allons mettre en place une organisation à travers ce que j'appellerais un pass sanitaire. Si quelqu'un est venu à un tel événement dans un lieu public, qu'il puisse être enregistré avec un code, de la manière la plus simple et la plus numérique qui soit, qu'il puisse alerter de manière automatique, mais qu'on puisse retrouver beaucoup plus facilement, c'est qu'à contact. Ce qu'on commence à faire depuis plusieurs mois avec tous anti-Covid, on le fera de manière beaucoup plus efficace. Sans doute, on pourra intégrer des éléments de tests négatifs récents. On pourra regarder aussi si vous avez été vacciné. Donc il faut préparer dès maintenant, techniquement, politiquement, juridiquement ce sujet. Quand je dis passe sanitaire, c'est que ça ne peut pas être soumis au vaccin. Parce que si on arrive à un moment dans le printemps à rouvrir certains de ces lieux, nous ne saurions conditionner leur accès à une vaccination, alors même que nous n'aurions même pas ouvert la vaccination aux plus jeunes d'entre nous. Ce serait invraisemblable.
Propos recueillis par Isabelle Horry. À noter que Paris et Berlin se sont mis d'accord sur des restrictions à la frontière pour les transfrontaliers de la Moselle. Ni fermeture, ni contrôle strict, mais obligation de test hebdomadaire négatif pour les Français qui travaillent en Allemagne. En Russie, l'opposant Alexei Navalny est maintenant au secret. Il a été extrait de sa prison moscovite pour une colonie pénitentiaire où il va purger ses 2 ans et demi de prison. La nouvelle vient d'être confirmée par l'autorité pénitentiaire russe. Personne hier soir n'en avait informé ses proches.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Dans un instant la suite, le sort des mineurs criminels. Un autre adolescent impliqué dans une bagarre mortelle de l'Essonne vient d'être envoyé en prison.
Europe Midi. Patrick Cohen.
Pour la deuxième rixe de la semaine en Essonne, celle de Boussy-Saint-Antoine, un adolescent de 15 ans vient d'être mis en examen pour meurtre et placé en détention provisoire. C'est lui qui a porté 2 coups de couteau à 2 autres jeunes. Mardi, l'un d'eux en est mort. Marion Dubreuil, que deviennent ces mineurs envoyés en prison ?
Et bien qu'ils soient placés en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire, l'enjeu est le même pour la justice, c'est de casser le phénomène de bande, d'éloigner ces mineurs de leur environnement habituel. Dans les deux dossiers de Rix en Essonne, les mises en examen ont interdiction de paraître en Île-de-France. Ce sont des mesures presque systématiques, comme nous l'explique Laurence Bellon, présidente du tribunal des enfants à Marseille.
Avec une reprise en main de ce qui est la scolarisation, les soins psychiques, les soins physiques, on est dans une fonction d'apprentissage des interdits et des valeurs de la société, l'interdit de la violence, l'interdit du vol, l'interdit de l'agression, plus complexe que simplement la sanction d'une infraction.
Les mises en examen sont suivies tout le temps de l'instruction par des éducateurs spécialisés de la protection judiciaire de la jeunesse. Ils seront jugés devant un tribunal pour enfants s'ils avaient moins de 16 ans au moment des faits, sinon c'est la cour d'assises. Ils encourent des peines de prison divisées par deux par rapport aux majeurs et pas de réclusion criminelle à perpétuité.
Marion Dubreuil, dans la famille des jouets mixtes censés échapper aux stéréotypes sexistes, je vous présente l'ex-monsieur Patate qui ne sera donc plus appelé monsieur. Décision du fabricant Hasbro qui veut dégenrer sa patate, Angèle Châtelier.
Monsieur Patate est l'un des personnages phares de la saga Toy Story.
Tu n'y penses pas que j'ai fait exprès de faire basculer Buzz par la fenêtre, voyons Patate. C'est Monsieur Patate, je te signale, espèce de traître, assassin.
Mais il y a évidemment le jouet dans la vraie vie, commercialisé dans les années 50, où les enfants ajoutent des attributs sur une forme de patate. Sauf que Monsieur Patate, eh bien, il a une moustache et Madame Patate, du rouge à lèvres. Et la marque Hasbro, qui les commercialise, veut désormais s'assurer, je cite, que tout le monde se sente le bienvenu dans le monde des têtes de patate. Comprenez que le jouet soit plus inclusif. Monsieur Tête de Patate n'apparaîtra donc plus sur l'emballage des jouets et la marque changera son logo en Monsieur et Madame Patate. Ils ne disparaîtront donc pas. La firme a simplement précisé qu'elle souhaitait promouvoir l'égalité des genres et l'inclusion. Cette question n'est pas nouvelle dans l'industrie du jouet. En 2018, notamment, la marque qui commercialise les Barbie annonçait financer une recherche pour mettre en valeur des modèles positifs de Barbie plus en adéquation avec ce que sont les femmes réellement.
Eh bien, moi je dis patate toi-même. Le temps, Anissa l'a dit, quelques gouttes.
Ah, c'est un bel accueil.
Et de la fraîcheur. C'était pas pour vous. Les gouttes et de la fraîcheur.
Oui, nous avons une petite perturbation, Patrick, qui traverse le pays. Elle touche la région parisienne, le centre, la Lorraine, la Champagne et la Bourgogne cet après-midi. En fin de journée, la perturbation va arriver jusqu'en Alsace avec un ciel gris et quelques petites pluies. Ce sont vraiment des pluies très fines. Dans le nord-ouest, le soleil est de retour cet après-midi après une matinée un petit peu nuageuse. Et puis sur la moitié sud du pays, après la dissipation des entrées maritimes, notamment sur le golfe du Lion, et bien là aussi le soleil s'impose, sauf sur le Pays Basque, où là nous avons toujours un ciel un petit peu plus couvert. Les températures, elles sont en baisse, vous le disiez, la fraîcheur, Patrick, hein, 10 degrés à Metz, 11 à Lille et Nancy, 12 à Brest, 13 à Paris et Nantes, 14 à Strasbourg, 15 à Nice, 18 pour Marseille et la maximale est prévue pour Nîmes avec 20 degrés. Ce week-end sera ensoleillé et un petit peu plus frais.
Merci Anissa.
Europe Midi. Patrick Cohen.
Les patrons de labo sur le grill des députés européens. On sera en ligne dans un instant avec celui qui les a réunis et interrogés hier après-midi, l'eurodéputé Pascal Canfin.
Europe Midi, écoutez le monde changer. Patrick Cohen.
Bonjour Pascal Canfin.
Bonjour.
Eurodéputé, président de la commission santé et environnement du Parlement européen, qui a donc pu auditionner hier 7 patrons de laboratoires sur leur production de vaccins, les retards de livraison, l'éventuelle cession de brevets. D'abord, que retenez-vous globalement de cet exercice et qu'avez-vous appris de neuf sur cette question absolument cruciale, évidemment, du rythme de production des vaccins ?
Alors d'abord, je voudrais souligner que c'est un exercice inédit sur le plan mondial. Et je suis fier que ce soit en Europe que ça se passe et au Parlement européen. C'est un moment important de transparence, de redevabilité et de construction de la démocratie européenne sur ce sujet. Sur le fond, je dirais une bonne nouvelle avec un bémol. Mmh. La bonne nouvelle, c'est que tous les laboratoires s'organisent pour être au rendez-vous de ce qui a été annoncé d'ailleurs hier par le Premier ministre, à savoir le point de bascule du mois de mai où nous serons en capacité d'avoir vacciné toutes les personnes vulnérables, c'est-à-dire les plus âgées et les plus fragiles avec des facteurs personnels qui les fragilisent. Une fois que nous aurons passé ce point de bascule, c'est-à-dire que toutes les personnes les plus vulnérables auront été vaccinées ou pourront l'avoir été, encore faut-il qu'elles le désirent elles-mêmes, mais ça c'est un autre sujet, alors on devrait pouvoir voir la fin du tunnel et ensuite aller vers le deuxième objectif, à savoir à l'été avoir vacciné 70% de la population. Et ça, tous les laboratoires sont concentrés là-dessus. Le bémol, si je peux me permettre, le bémol, ça revient encore une fois d'un des laboratoires qui s'appelle AstraZeneca, avec lequel nous avions déjà eu un problème au premier trimestre, parce qu'il ne nous avait pas livré les doses auxquelles il s'était engagé. Et hier, au Parlement européen, le patron d'AstraZeneca a encore été incapable de s'engager formellement au fait que son labo respectera les engagements pris pour le deuxième trimestre, à savoir livrer 180 millions de doses de vaccins sur les trois prochains mois, mars, avril, mai, et donc de quoi vacciner au moins 90 millions d'Européens.
Et vous avez bien compris, de la part d'AstraZeneca et de son patron Pascal Soriot, français qui vit en Australie, c'est de là-bas qu'il vous a répondu, AstraZeneca réserve bien une part prioritaire de sa production au Royaume-Uni, hein, c'est ça qui a été dit clairement, y compris pour ce qui est fabriqué sur le continent, c'est-à-dire dans son usine des Pays-Bas.
Alors, il y a deux choses. L'essentiel de ce qui est fabriqué en Europe pour le laboratoire AstraZeneca est à destination du marché européen. L'immense majorité, a-t-il dit, si j'emploie ces termes. Ce qui veut dire qu'une petite partie va vers le Royaume-Uni. Mais en soi, c'est pas dramatique. Nous avons aussi des vaccins qui sont livrés aux Européens, qui sont fabriqués en dehors d'Europe. Et donc, il faut pas tomber dans une forme de nationalisme ou de protectionnisme vaccinal qui empêcherait, au contraire, d'optimiser les flux, les chaînes de valeur, les sites de production, et donc, à la fin, de livrer encore plus de vaccins dont nous avons besoin. Donc, moi, je ne tombe pas ni dans le protectionnisme ni dans le nationalisme vaccinal, ce serait contre-productif d'un point de vue sanitaire. En revanche, là où vous avez raison, c'est que il est très clair que AstraZeneca, étant une compagnie à moitié britannique, qui développe un vaccin qui a été développé à 100% par l'université d'Oxford sur des fonds britanniques, que la priorité est faite aux livraisons du Royaume-Uni. Je crois que ça a été clairement dit hier. On peut le regretter. Néanmoins, nous avons, et c'est là où nous avons un problème avec AstraZeneca, c'est que nous avons signé un contrat. Et ce contrat, le patron d'AstraZeneca connaissait parfaitement la situation de son contrat avec le Royaume-Uni au moment où il a signé le contrat avec nous. Et c'est pour ça que je peux entendre, puisque l'argent qui a servi à développer le vaccin est britannique, je peux entendre que les Britanniques aient mis dans les conditions du contrat qu'ils doivent être servis en premier. Ça s'entend. En revanche, lorsque AstraZeneca négocie avec nous, il prend des engagements, il doit maintenant tenir ses engagements. Et c'est d'ailleurs ce que la Commission européenne, avec Thierry Breton, est en train d'organiser tous les jours, pour que tous les labos, et pas seulement AstraZeneca, bien évidemment, tiennent ses engagements. Et si nous arrivons à nous rapprocher le plus possible des 180 millions de doses pour le deuxième trimestre livrées, produites par AstraZeneca, alors nous serons en capacité de tenir l'objectif que j'évoquais à l'instant, à savoir avoir vacciné en mai toutes les personnes vulnérables. Et ça, je pense que ça éclaircira fortement la situation, puisque ça veut dire que la pression sur les hôpitaux diminuera considérablement.
Bien sûr, ce calendrier est important, Pascal Canfin, mais la question centrale, et qui traversait votre audition hier auprès des patrons de labo, c'est est-ce que ça pourrait aller plus vite? Est-ce qu'on pourrait encore développer la production de vaccins, ouvrir de nouveaux sites de production, éventuellement céder la fabrication ou la concéder par l'entremise de cessions de brevets? Là-dessus, quelles ont été les réponses qui vous ont été apportées?
Alors, là-dessus, il faut faire feu, évidemment, de tout bois et n'avoir aucune idéologie préconçue, mais être dans le pragmatisme total, à savoir qu'est-ce qui marche. Aujourd'hui, la première chose qui marche, c'est d'augmenter la productivité des usines qui tournent déjà. Elles tournent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais si à chaque minute, elles peuvent produire 10 doses de plus, eh bien, à la fin, ça fait des millions d'Européens en plus qui sont vaccinés. Donc, travailler la productivité. Et je peux vous dire qu'il y a encore quelques gains à aller chercher là dans les usines européennes. Ensuite, éventuellement, ouvrir de nouveaux sites de production. Mais ça prend plus de temps. On est plutôt sur du moyen terme. Donc, c'est pas la solution qu'on privilégie à court terme. Ce qu'on privilégie à court terme, c'est la productivité des usines existantes et les partenariats entre les laboratoires. Par exemple, Sanofi a annoncé qu'ils allaient produire les vaccins de deux concurrents. Mmh. Ça, c'est quelque chose qu'il faut saluer parce que ça permet quand même d'ouvrir le jeu et de produire plus. La question des brevets, elle est sur la table. Néanmoins, tout le monde le sait, c'est pas parce que vous avez un brevet, que vous avez une formule, que vous êtes capable demain matin de produire le vaccin à grande échelle de manière sécurisée et de manière fluide. Donc, pour moi, la question des brevets se posera sans doute dans un deuxième temps. Mais aujourd'hui, l'enjeu, c'est produire plus, produire plus, produire plus. Et pour ça, on y met les moyens. On y met les moyens en France, on y met les moyens en Europe et partout dans le monde. Et c'est un effort de guerre, comme on dit. Et nous avons gagné la première bataille du vaccin. Il faut jamais oublier que nous avons collectivement développé ce vaccin dans des temps absolument records, à peu près 5 à 10 fois plus vite que ce que nous faisons d'habitude. Maintenant, il faut gagner la deuxième bataille. La deuxième bataille, c'est la production de masse. C'est celle qui nous mobilise tous les jours. Et si nous la gagnons, alors je peux vous dire qu'au mois de mai, on aura ce point de bascule.
Dernier point important, Pascal Canfin. Avez-vous encore des interrogations sur les contrats passés avec ces labos par la Commission européenne? Et aurez-vous la possibilité de les consulter, tous ces contrats?
Alors, nous avons consulté ces contrats de manière partielle, car les laboratoires se sont opposés à ce qu'ils soient intégralement mis dans le domaine public. Je peux comprendre que certaines clauses, par exemple, je ne sais pas, la formule du vaccin, ne soit pas dans le domaine public et soit protégée par le secret des affaires. En revanche, tout le reste devrait être public. Donc, je regrette que ça ne soit pas le cas. Et nous allons mettre, à partir de la semaine prochaine, en place un groupe de contact permanent entre les parlementaires européens et la Commission européenne, par exemple avec Thierry Breton. Je co-présiderai ce groupe de contact permanent. Ce sera là aussi une première au monde en termes de redevabilité démocratique. Et nous aurons, dans ce contexte-là, je pense, accès à la totalité des vaccins et nous pourrons nous faire un avis définitif, ce qui aujourd'hui malheureusement n'est pas encore possible.
Mais précisément, que voulez-vous trouver dans ces contrats en dehors des engagements de livraison qui ont été pris par les fabricants?
Déjà, les engagements de livraison, c'est important. Je crois qu'on vient d'en parler assez longuement. C'est le cœur du sujet. C'est quel est le chiffre exact auquel se sont engagés à livrer tel ou tel laboratoire. Et finalement, si vous voulez, ces chiffres finissent par être dans le domaine public. Parce que on ne peut pas avoir un débat public informé basé sur les faits si on ne sait pas quel est l'engagement matériel, c'est-à-dire en l'occurrence pour AstraZeneca, par exemple 180 millions de doses dans les 3 prochains mois, si on ne sait pas où ces vaccins sont produits. Or, dans la version actuelle des contrats que nous connaissons et que tous les citoyens peuvent consulter sur le site de la Commission européenne, les sites de production précis sont surlignés de noir.
Ah oui.
Donc évidemment, ça empêche d'avoir un débat très simple pour dire, c'est telle usine qui produit tel vaccin pour tel pays. Comme ça, on a un débat basé sur les faits et on sait exactement ce qui se passe. Moi, mon objectif depuis le début, et c'est depuis le mois de septembre dernier, c'est pas nouveau que je me bats pour la transparence des contrats, c'est créer la confiance. Parce que je pense que le succès de la vaccination implique la confiance généralisée et la transparence est une des conditions de la confiance, et d'avoir un débat basé sur les faits. C'est pas pour dire tout ce que fait l'Europe c'est bien, tout ça est formidable tout le temps, évidemment, mais c'est pour dire si on doit avoir des critiques, il faut que ce soit des critiques basées sur les faits, et pour que les critiques soient basées sur les faits, encore faut-il que les faits soient connus, et on en revient à l'exigence de transparence.
Merci beaucoup Pascal Canfin, depuis Bruxelles, président de la Commission Santé et Environnement du Parlement européen.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, le 13h par Romain Oquet, puis La France bouge avec Elisabeth Assayag et Emmanuel Duteil. Bonne journée et bon week-end à l'écoute d'Europe 1.